11h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. RFI vous informe. Bonjour Simon Boustambourg.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Et à la une de cette édition, la reprise au Canada des négociations sur un traité contre la pollution plastique. Le plastique, dont la production annuelle atteint les 460 millions de tonnes et elle pourrait tripler d'ici 2060, si rien n'est fait, nous le verrons. Vous en parliez avec Juan Gomez il y a quelques instants. 3 jours de deuil national ont été décrétés en Centrafrique. Au moins 62 personnes sont mortes dans le naufrage d'une baleinière sur la rivière Mpoko. Les recherches de survivants continuent dans les villages qui environnent cette rivière. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis à la une également, la satisfaction de Kigali et le désarroi de l'ONU et du Conseil européen. Les réactions s'enchaînent alors que le Parlement britannique a adopté cette nuit un projet de loi qui vise à envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile entrés illégalement. Et puis en fin de journal, nous parlerons football. L'Inter Milan est sur le toit de la Serie A. À la faveur de leur victoire face à l'AC Milan, les interistes remportent leur 20e championnat d'Italie de football. Parvenir au premier traité mondial contre la pollution plastique, c'est le but des négociations internationales qui reprennent ce mardi à Ottawa. Les enjeux autour de cette session de débat sont importants car un texte doit être finalisé d'ici la fin de l'année. Il est donc de plus en plus important de trouver des mesures concrètes contre la prolifération des déchets qui inondent la nature. Mais Simon Rosé, le compte est loin d'y être pour les pays les plus ambitieux en la matière.
Chaque minute, ce sont 15 tonnes de déchets plastiques qui échouent dans les océans. Et si rien n'est fait, le phénomène va s'amplifier. L'espoir était donc grand en mars 2022, quand les États du monde entier s'entendaient à Nairobi pour mettre fin à cette pollution, avec la mise en place d'un traité international contraignant d'ici fin 2024. Mais voilà, ce texte, il faut bien l'écrire et ça coince. 3 sessions de négociations ont eu lieu. Elles ont permis d'obtenir un brouillon, mais celui-ci reste encore très flou et ne tranche pas entre les options qui conviennent aux pays ambitieux en la matière et ceux qui le sont beaucoup moins. Si certaines dispositions font consensus, comme la généralisation des filières de recyclage, d'autres, comme la diminution de la production de plastique ou encore la mise à contribution financière du secteur privé, divisent. Les pays producteurs de pétrole, notamment, sont résolument contre. Si une dernière table ronde est prévue en fin d'année, cette session à Ottawa devra donc trouver un chemin entre ces positions opposées, faute de quoi l'ambition de ce traité pourrait déjà bien être condamnée.
À Simon Rosé, chef du service environnement de RFI. L'UNRWA manque de neutralité, mais Israël n'a pas fourni la preuve de lien terroriste. Voilà les conclusions rendues hier par des experts mandatés par l'ONU. Un rapport qui ignore la gravité du problème, dénonce Israël. L'État hébreu avait pointé de prétendus liens entre certains membres de l'UNRWA et le Hamas dans l'attaque du 7 octobre. La guerre qui dure donc depuis 6 mois et qui a anéanti le système de santé à Gaza et priver les Palestiniens du droit à être soignés. C'est cette fois l'accusation portée contre Israël par le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la santé. Depuis le début de la guerre, en effet, les hôpitaux gazaouis ont été touchés par des bombardements israéliens. Le système de santé manque donc de tout, il est détruit et le personnel médical tire la sonnette d'alarme. Maïm Kershi est médecin et elle revient tout juste de Gaza. Écoutez son témoignage.
Il y a un manque cruel de tout, des équipements les plus basiques. Cela va des champs opératoires aux vêtements appropriés ou aux solutions nettoyantes. Pour les personnels médicaux, il n'y a pas de quoi se laver les mains entre 2 patients parce qu'il y a un manque cruel d'eau ou de gel hydroalcoolique. Je me souviens d'un patient qui est arrivé avec une blessure très grave à la jambe. Il a perdu sa jambe. Quand il est arrivé aux urgences avec cette plaie ouverte horrible, la seule chose que j'ai trouvé, ou en tout cas la plus propre, pour panser ce qu'il restait de sa jambe avec quelque chose qui n'était pas déjà souillé de sang, la seule chose que j'ai trouvé, c'est une couche pour bébé qui n'était pas utilisée. On manque vraiment de tout.
Un des propos recueillis au micro RFI de Muriel Paradon.
RFI, Radio France Internationale.
RFI, il est 5h05 à La Paz, en Bolivie, où les nouveaux rebondissements autour du projet d'exploitation du lithium font la une des médias. L'entreprise chargée en décembre d'exploiter le précieux matériau a décidé de porter plainte contre plusieurs de ses anciens fonctionnaires. Ils sont accusés d'avoir fait perdre des dizaines de millions de dollars à l'entreprise. Correspondance à La Paz de Nils Sabin.
Après la fête, c'est le temps des enquêtes. En décembre dernier, le gouvernement bolivien avait inauguré en grande pompe la première usine de carbonate de lithium du pays, une avancée présentée comme majeure dans l'industrialisation du secteur. Pourtant, aujourd'hui, le tableau semble moins flatteur. La semaine dernière, l'entreprise publique qui exploite le lithium du pays a porté plainte contre 11 ex-fonctionnaires et hier, un ancien ministre des Mines a été arrêté dans une enquête en lien avec le lithium. La procédure concerne la construction de 18 piscines d'évaporation qui servent à récupérer le lithium dans le désert de Selduyuni. Lors de leur construction, certaines normes de durabilité n'ont pas été respectées. Résultat, ces piscines sont aujourd'hui hors service. Une erreur à 60 millions de dollars selon Carla Calderon, la directrice de l'entreprise publique. Avec ces piscines hors service, c'est aussi l'usine inaugurée en décembre qui est impactée. En effet, sans le lithium récupéré par évaporation, l'usine n'a pas de matière première et elle ne fonctionne actuellement qu'à 30% de ses capacités. Une très mauvaise nouvelle, alors que le gouvernement bolivien compte en partie sur les exportations de lithium pour redresser les comptes publics. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Je vous le disais en titre, en Centrafrique, le bilan ne cesse de s'alourdir. Trois jours après le naufrage d'une baleinière sur la rivière Mpoko au sud-ouest de Bangui, la protection civile annonce un nouveau bilan provisoire d'au moins 62 morts, mais selon certains témoignages, plus de 70 personnes auraient péri dans le naufrage. Le gouvernement a décrété un deuil national de trois jours, tandis que les recherches continuent dans les villages environnants. Reportage signé Rolf Steve Demialu.
Ici, au quartier Pétévo, dans le 6e arrondissement, des pailles sont plantées au bord de la route en signe de deuil. Lorsque l'on demande à Magali, une habitante, les nouvelles de sa mère, la jeune femme fond en larmes.
Les fouilles se poursuivent, mais on n'a pas encore retrouvé le corps de ma mère. Mon père, qui a lui aussi été victime du naufrage, il est toujours dans le coma et se bat entre la vie et la mort.
Face au drame, le gouvernement a décrété trois jours de deuil national. Albert Yalokemokwem est le porte-parole de la présidence.
Les lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 avril 2024, jour de deuil national sur toute l'étendue de la République centrafricaine. Les jours de deuil national ne sont pas fériés. Les drapeaux sont mis en berne et hissés à mi-mât sur les édifices public.
Si Eud Damazi salue ce message, il affirme que les survivants ont des besoins plus urgents.
C'est ce que tout le monde attendait, mais que ça ne s'arrête pas ici, parce que les autorités doivent prêter main forte, surtout aux familles éprouvées et les victimes qui sont encore à l'hôpital. Il faut se rapprocher d'eux pour leur assister.
Ce lundi, encore quatre corps ont été repêchés à 60 km au sud-ouest de la capitale. La protection civile a déployé ses équipes en aval du fleuve et les fouilles continuent dans les villages environnants. Rolf Esteb, Domialeu, Bangui, RFI.
À Kigali fait état de sa satisfaction alors que l'ONU et le Conseil de l'Europe appellent le gouvernement britannique à reconsidérer son plan d'expulsion vers le Rwanda. En effet, cette nuit, après 7 mois de débat, le Parlement britannique a adopté un projet de loi. Il vise à envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile entrés illégalement et ce, sans se soucier de leur pays d'origine. En football maintenant, l'Inter Milan a été sacré champion d'Italie pour la 20e fois. Voilà en effet les interistes assurés du titre à la suite de leur victoire hier 2-1 dans le derby milanais. À 5 jours de la fin du championnat, les Nerazzurri comptent en effet 17 points d'avance sur leur dauphin. Ils ne peuvent donc plus être rejoints. Eric Mamrut.
Le bonheur absolu pour les interistes sacrés champions d'Italie en remportant le derby face à l'éternel rival, de surcroît dauphin au classement. Un Milan AC relégué à 17 longueurs, un écart abyssal et d'autant plus humilié qu'il voit l'Inter lui passer devant désormais au nombre de calcio remportés. 20 titres contre 19 pour les Rouges et Noirs. Une double dizaine qui offrira aux Bleus et Noirs le droit de porter une deuxième étoile sur leur maillot. L'Inter succède au palmarès au Napoli après une saison quasi parfaite. En 33 matchs, il n'a perdu qu'une seule fois, engrangeant 27 victoires et 5 résultats nuls. Avec en prime la meilleure défense, seulement 18 buts encaissés et la meilleure attaque, 79 buts marqués, dont 23 par le seul Lautaro Martinez, l'attaquant argentin actuel meilleur buteur du championnat. Cannes. Le capitaine interiste, qui aura bien été secondé par l'une des nombreuses recrues de l'été dernier, Marcus Thuram, auteur hier à San Siro de son 12e but en Serie A. À 26 ans, voilà l'international français pour la première fois sacré champion d'Italie, comme son coéquipier défenseur Benjamin Pavard, mais aussi comme son père Lilian, qui avait remporté son premier Scudetto en 2002 avec la Juventus Turin.
À la Juventus de Turin qui reste le club le plus titré dans le championnat italien avec 36 trophées. RFI, il est 11h passé de bientôt 10 minutes. Ici à Paris, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.